Bonjour à tous, je m'appelle Samuel, je suis l'un des pasteurs ici. C'est une joie pour moi de vous retrouver tous et d'étudier la Bible ensemble. Nous lançons notre rentrée d'église autour de ce sujet de l'amour en étudiant un des chapitres les plus célèbres de la Bible, 1 Corinthiens chapitre 13. Et nous allons encore lire un extrait ce matin. Mais peut-être vous direz, oui, les chrétiens parlent de l'amour. Souvent, l'amour, c'est bien beau, mais cause toujours, pasteur. Regarde notre monde, les injustices, les guerres, mon quotidien. Si l'amour s'est fermé les yeux sur tout ça, non merci. De toute façon, on ne peut pas aimer tout le monde le sait. Donc finalement, beaucoup parler d'amour, c'est un peu naïf, c'est un peu bateau, diraient certains. Vous savez, on dit qu'en Écosse, il y a 17 mots pour parler de la pluie. Ça nous étonne peut-être, mais en France, on a bien plus de mots pour parler du fromage. Eh bien, C.S. Lewis, dans un livre célèbre qui s'appelle « Les quatre amours », il remarque que dans le grec biblique, on distingue différentes sortes d'amour. Donc nous, un seul mot « amour » français, il y a quatre mots en grec pour parler de différents amours. Donc, quatre amours, j'aime le chocolat, c'est une affection normale, j'aime la plage, donc c'est une appréciation, une affection. Ensuite, il y a j'aime mon collègue, j'aime mon voisin, ça c'est un amour fraternel, c'est un autre mot en grec, mais voilà, c'est j'aime effectivement, j'aime mon collègue avec lequel je m'entends très bien, ça c'est un amour. Après, il y a encore un autre amour, Eros, mais ça, vous le reconnaîtrez. J'aime la jolie fille là-bas. On s'est mariés. Voilà, il y a cet amour-là, un peu différent. Et puis, on arrive ici aussi, dans le contexte de la Bible, agapé, l'amour suprême, l'amour divin, l'amour chrétien, l'amour de 1 Corinthiens 13. Et c'est déjà utile de distinguer entre ces différentes sortes d'amour. Pour quand on parle de l'amour, c'est pas bateau ou c'est pas trop. D'ailleurs, dans ces amours, des fois, il convient de ne pas aimer de certains amours. Dans tous les cas, hein. Le chocolat, peut-être, il faut que j'apprenne à aimer moins ce chocolat pour certains. Je ne devrais pas avoir un amour romantique érotique pour toutes les femmes au monde. Ce serait de l'infidélité. Et Dieu n'aime pas Satan, par exemple. Donc, on est d'accord que si on commence à nuancer l'amour, on arrive à en parler peut-être de manière plus sage et plus intéressante pour nos vies. Et moi, je vous dis ce matin, pour accéder au plus grand amour, il va falloir l'aide de Dieu. Parce que parmi ces quatre amours, même le monde reconnaît que chacun est peut-être plus grand, plus noble, plus difficile en avançant. Aimer le chocolat, aimer la plage, c'est facile. Aimer mon collègue au travail, qui est sympa, c'est bien, mais des fois. Aimer un conjoint, aimer un époux, une épouse, c'est facile par certains moments, avec l'amour érotique, mais tenir dans le temps, rester fidèle à ses vœux de mariage, ça, c'est un défi, hein, c'est un grand défi, ça devient vraiment plus difficile. Mais quand on parle de l'amour agapé, l'amour divin, l'amour du 1 Corinthiens 13, je reconnais que quelques gens dans nous disent ça c'est trop difficile, trop souvent. Et on aura besoin de Dieu pour ça. Et c'est pour ça qu'on se tourne, nous ici, en ce mois de septembre, vers la Bible et la définition de l'amour selon Dieu. Il y a une citation de ce théologien Jonathan Waters qui m'aide beaucoup à comprendre le rapport avec l'amour, le besoin de Dieu pour vivre l'amour. Lui, il dit, c'est intéressant, « Toute chose qui est aimée d'un amour vrai et saint est aimée en rapport avec Dieu, soit en étant créée par lui, soit en étant un reflet de sa gloire et de son image, soit comme objet de son amour et de sa grâce. » Et quand on garde cela en tête, peut-être ce grand amour, cet amour divin, cet amour agapé, devient de plus en plus possible. Et cette vérité va nous aider ce matin à vivre un des aspects les plus nobles, mais aussi les plus difficiles de l'amour, un aspect qui nous vient le moins naturellement, peut-être surtout en France. Et c'est dans 1 Corinthiens 13, le passage que je retiens. C'est juste quelques versets. Je les ai affichés ici. On a étudié les premiers 3 versets la semaine dernière. Et maintenant, on prend la suite. Mais je regroupe certaines qualités de l'amour ensemble sous ce titre « L'amour est patient ». Donc le texte en 1 Corinthiens 13, à partir de verset 4, en prenant quelques extraits, on trouve ces versets. « L'amour est patient, il est plein de bonté, il ne s'irrite point, point. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne périt jamais. » Tout d'abord, j'aimerais parler de cette qualité formidable de l'amour. L'amour est patient. Alors, ce matin, je regroupe plusieurs qualités de l'amour dans ce texte en une. Chaque mot, chaque qualité apporte des précisions, des nuances. Mais si on rassemble tout cela dans un faisceau d'indices, on distingue cette qualité formidable de l'amour. Sa patience, sa résilience, sa capacité à tenir la distance, cette bonté constante, vous l'avez dans ces mots, vous voyez un peu, ils sont synonymes, patient, ne pas s'irriter, excuser, supporter, tout croire, tout espérer, ne pas périr, vous voyez la résilience, la constance de l'amour. Dans votre maison, vous savez, vous avez une armoire électrique avec des disjoncteurs, des fusibles. Il y a des 10 ampères qui sautent plus facilement. Il y a des 16 ampères et puis il y a des 32 ampères. Vous mettez ça pour les plaques de cuisson parce que ça tire fort. Eh bien, l'amour est un disjoncteur, un fusible de gros ampérage. Il supporte la chaleur, la friction, la tension avant de sauter. Et c'est justement comme un disjoncteur. Quand ça saute, des fois, oui, l'amour est lent à la colère, mais l'amour est patient. Si ça saute, ce n'est pas une explosion incendiaire, une bombe avec perte et fracas. C'est une protection. C'est ce qu'on appelle les disjoncteurs, c'est une protection qui calme la tension et qui vise à rétablir rapidement le courant. Donc, quel est votre ampérage ce matin? Ici, dans ce chapitre 13, en fait, Paul vante l'amour comme le meilleur des dons, la meilleure voie dans les relations fraternelles, chrétiennes, au sein de l'Église. Paul vante l'amour, dans le contexte de 1 Corinthiens, Paul vante l'amour comme le meilleur don, à cause de ses qualités innées. Et il fait la liste des qualités innées à l'amour. L'amour est patient, c'est ce que nous étudions ce matin. Il y en a d'autres, mais ce matin, l'amour est patient. L'amour ne s'irrite point. L'amour supporte tout. C'est une qualité innée, automatique de l'amour. Paul n'est pas en train de dire « ce serait bien que votre amour devienne de plus en plus patient ». Il dit « l'amour est patient ». Comme la glace est froide, le soleil est lumineux. L'amour est patient. Ce qui n'est pas le cas des autres dons. C'est pour ça que l'amour est meilleur. Un don musical, par exemple, ou comme le don qui posait problème à Corinthe, le parler en langue, ces dons-là ne contiennent pas la qualité innée de la patience. Une personne peut être très douée en musique, mais être une personne vantarde, frimeuse, irritable. Je lisais cet été la biographie de Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Il avait un don de créativité, un don d'innovation, mais il avait un côté cruel, cassant, impatient. Certains diraient, ben, c'est ça qu'il faut pour gagner beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas la mission première de l'Église de gagner beaucoup d'argent. La mission de l'Église, c'est de glorifier Dieu. Mais c'est ça l'avantage de l'amour. C'est que lorsqu'on aime quelqu'un ou quelque chose, naturellement, on peut supporter des désagréments, des irritations. Lorsqu'ils ont sorti un nouveau film Star Wars en 1999, certaines faisaient la queue pour 6 semaines. Et donc, ils ont même créé un site web pour ça, et le site dit « Nous aimons recréer l'expérience classique des files d'attente interminables où des légions de fans se rassemblent pendant des jours pour célébrer le prochain événement cinématographique historique. » Voilà, donc, c'est merveilleux, des files d'attente interminables pour Star Wars. faire la queue 6 semaines pour la préfecture pour un papier à la préfecture, ce serait insupportable. Dans un bouchon de rocade, ça mérite. Quelle est la différence? Eh ben, c'est l'amour de la chose, pour les fans de Star Wars en tout cas. Ou encore l'idée d'une grossesse, suivie d'un accouchement, suivie des nuits saccadées, me semble complètement folle, bizarre, indésirable, insupportable, mais quasiment toutes les femmes l'envisagent, et beaucoup veulent même recommencer. D'où vient cette patience? D'où vient cette capacité de tout supporter? Eh ben, c'est l'amour pour la vie, l'amour maternel, l'amour parental, pour l'enfant qui permet de tout supporter. Donc déjà, nous trouvons cette qualité de patience dans les amours humains naturels, mais encore plus dans l'amour qui vient de Dieu. Et c'est pour ça que tout au long de ce culte ce matin, nous avons célébré la patience de Dieu envers nous. Dieu ne pète pas un câble chaque fois que je pêche contre lui, ni même lorsque des millions d'êtres humains pêchent contre lui. Et cette pensée, s'il le fait envers moi, je peux éventuellement le faire envers d'autres, ça change. À Toulouse, en ce moment, c'est le chantier, un gros chantier, avec la 3e ligne du métro. Parfois, la circulation est pénible, mais on supporte en vue d'une 3e ligne de métro qui, le jour qu'on l'aura, ce serait quand même pratique. Lorsque vous sortez à Esquirol et il y a tous ces... Il faut se perdre un peu pour savoir traverser la route, mais quand même, ces panneaux, le 3e ligne arrive, vous supportez, vous êtes moins irrité, vous voyez, parce que vous espérez ce qui vient dans la 3e ligne de métro. On va vivre ça avec le projet phare. Bientôt, il y aura des travaux et il y a quelques désagréments, mais l'amour pour les Toulousains et puis l'amour pour Dieu et pour l'amour les uns pour les autres va nous aider à peut-être supporter quelques gênes, parce que on aime voir notre église grandir, on aime voir les gens découvrir l'amour de Dieu. Mais ça, c'est pareil pour nous tous, en fait. L'amour chrétien rappelle que tout le monde est un chantier, est en chantier avec Dieu. Et donc, il croit, il espère le résultat final, qui n'est pas encore le cas, comme le 3e ligne de métro, c'est pas encore achevé. Nous non plus, chaque chrétien n'est pas encore achevé, mais on espère le jour où un jour, ce serait parfait. Et donc, c'est en pensant que cette personne, mon frère, ma sœur, est en chemin avec Dieu, et Dieu n'a pas fini avec lui, je peux supporter, parce que voilà, j'espère, je crois, j'envisage l'avenir. Voyez comment l'amour, cette qualité formidable de l'amour qui nous fait patienter, qui nous empêche de nous irriter. J'ai grandi dans une famille nombreuse. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, on s'entend très bien. Mais oui, j'ai des souvenirs, on pouvait se chamailler, s'irriter les uns contre les autres. Mais maintenant qu'on se retrouve, des fois, on rappelle de certaines histoires, certaines anecdotes, certains moments où on était pas très gentils. Et là, aujourd'hui, on se dit, mais quelle bêtise de s'être disputé pour ça. Quelle fourchette, quelle place dans la voiture, quelle barre de gâteau, là. Est-ce que... Mais nous, enfants de Dieu, vous savez quoi? Un jour, réunis au ciel, on va se dire, vous savez, on n'était pas très futés, là, de s'irriter pour ce genre de choses. Au vu du plan grandiose de Dieu et l'éternité et les âmes qui se perdent, c'est difficile à croire qu'on s'est irrité les uns contre les autres pour ça. Et donc déjà, l'amour, c'est pour ça, l'amour espère ce jour où nous serons réunis en famille, où l'amour sera parfait, puisque l'amour ne périt jamais. Et en espérant ça, ça nous aide à aujourd'hui patienter, ne pas s'irriter. Donc c'est une qualité formidable de l'amour et les passions. Maintenant, je vais vous parler de son utilité fréquente. Cette qualité va vous servir de manière très fréquente dans la vie. Avouons-le. Vous aurez fréquemment besoin de cette qualité de l'amour qui ne s'irrite point, qui patiente, qui excuse, qui supporte et qui recommence. Tôt ou tard, une personne va vous faire ou dire quelque chose que vous n'appréciez pas. Mais c'est là où l'amour agapé entre en jeu. Déjà, vous n'êtes pas surpris quand un frère, une sœur, un autre être humain avec un cœur pécheur se comporte comme un être humain avec un cœur pécheur, parce que vous avez le même. Puis vous sentez une force intérieure nouvelle qui vous aide à pardonner, comme Dieu vous a pardonné. Vous ne montez pas dans les tours, vous n'envoyez pas le texto cinglant. Vous faites confiance à Dieu. Et ça, ce serait une habitude que vous pouvez fréquemment mettre en place. Un frère de ma cellule racontait que même en milieu professionnel, c'est des fois apprendre ça, c'est utile. Vous recevez un mail très injuste, et votre réaction, c'est de répondre sur le même ton avec un mail encore plus. Mais lui, il dit, en fait, quand je fais ça, des fois, je n'en vois pas tout de suite. J'attends. J'attends la fin de la journée, j'attends 24 heures, j'attends 48 heures, peut-être la semaine. Et là, si vous attendez ne serait-ce un peu, vous voyez, ce mail, je vois qu'il faut baisser, il faut changer de ton, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Peut-être que vous allez mieux parler à la personne calmement. Et puis, souvent, ça règle le problème. Et donc, cette réaction, ça va vous servir fréquemment dans la vie. Vous savez, le verset dit, l'amour croit tout. L'amour croit, l'amour est prêt à croire que l'autre personne a peut-être des circonstances particulières ou des motivations que je n'ai pas captées, a peut-être un raisonnement qui, peut-être il vaut mieux écouter. Il y a un proverbe qui dit, le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et on l'examine. Ça, c'est Proverbe 18-17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et on l'examine. Mais vous savez que la première personne qui parle dans votre tête, c'est vous-même, c'est votre raisonnement. Et c'est toujours vous qui paraissez juste. C'est toujours vous la victime. Mais l'amour est prêt à croire, à entendre la partie adverse et puis à réexaminer. L'amour, cet amour patient, reconnaît que finalement, je ne peux pas parfaitement connaître ou juger les motivations de l'autre. Et d'ailleurs, même pas les miennes. Paul dit la chose dans ce même épître, chapitre 4. Il dit, avant de juger, est-ce que vous connaissez vraiment les motivations de l'autre? Vous ne connaissez même pas les... Je ne connais même pas mes propres motivations toujours. Alors, l'amour croit que peut-être il y a d'autres circonstances atténuantes. Et il ne s'irrite pas, il excuse, il attend, il patiente. Alors, vous direz ça, mais vivre ça fréquemment, ça, c'est dur, j'arrive pas. Mais je vous rappelle ce matin que aussi difficile que ce soit de vivre une vie qui pardonne, qui patiente, essayez de vivre une vie qui ne pardonne pas, qui s'irrite constamment. C'est pire. Vivre constamment irrité, vivre constamment offensé, vivre constamment blessé, vivre en victime perpétuelle, c'est autodestructeur pour vous. Alors, ce matin, je vous dis, ne serait-ce pour votre propre santé physique, votre propre santé mentale, votre propre santé professionnelle, votre santé spirituelle, prenez la voie de l'amour. Bien sûr, cet amour patient est utile dans bien, bien des cadres. Je pense même à l'amour romantique, l'amour érotique. Selon le monde, l'amour, c'est je t'aime, tu m'aimes, on saute dans le lit ensemble et voilà. Mais ça, c'est l'impatience charnelle, c'est pas l'amour. L'amour est prêt à patienter. L'amour, on disait, c'est vouloir le bien ultime de l'autre personne. Donc, vouloir le bien ultime de l'autre personne, long terme, ça demande des fois de la patience. On peut être patient, on peut ne pas brûler les étapes, on peut construire un projet ensemble, on peut attendre le mariage, puis on peut rester fidèle à ses vœux de mariage pendant toute une vie si on regarde cet amour agapé, cet amour qui ne s'irrite point, cet amour qui patiente. C'est très pratique pour, dans le cadre même romantique. Cette qualité va vous servir aussi dans la vie d'église, constamment, fréquemment. Paul, ce matin, on vous a encouragé à rejoindre une cellule, à suivre une formation, à servir dans un ministère. Eh bien, l'amour patient va vous servir dans tous ces cas-là. Servir dans un ministère, rejoindre, fréquenter, vivre une cellule, suivre une formation, la patience sera utile. Il y aura des moments dans ces ministères, dans ces cellules, il y aura des moments joyeux, faciles, euphoriques. Il y aura aussi des moments fatigants, on n'a pas trop envie. Et c'est là où l'amour pour vos frères et sœurs peut vous porter plus loin. Vous commencez à vous supporter, vous n'irritez point, vous tenez dans le temps. Vous voyez comment ça marche, l'amour est patient. Et puisqu'il commence avec cette qualité, dans sa liste entre versets 4 et 8, il commence avec cette qualité et quelque part il termine avec cette qualité. Je pense que c'est une qualité essentielle de l'amour qui revient fréquemment. Vous savez, sur l'ordinateur, il y a la souris et vous pouvez régler la sensibilité de la souris. Est-ce que vous avez déjà utilisé un ordinateur où la sensibilité est mal réglée? Quand il y a de l'hypersensibilité, vous touchez la souris, ça part en flèche et vous n'arrivez à rien choisir. C'est fâcheux. Et après, bien sûr, il y a l'autre extrême où rien ne bouge, vous scrollez, un centimètre, non. En fait, l'amour chrétien règle notre vie à la bonne sensibilité, ni une hypersensibilité qui part en flèche au moindre problème. Mais maintenant, je me rappellerai que c'est ni non plus une insensibilité totale. Et mon troisième point ce matin, c'est que cet amour, ces versets, nous parlent aussi d'une radicalité troublante. Donc une qualité formidable, c'est la patience. Une utilité fréquente, vous allez devoir souvent vivre cet amour. Mais ces versets sont un peu troublants, notamment verset 7. Il y a une radicalité troublante. Comme Paul dit, l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Est-ce que Paul nous appelle là à être insensibles aux injustices? Est-ce que Paul nous appelle à croire n'importe quoi, sur n'importe qui? L'amour croit tout. C'est quoi ce tout qui me paraît radical? Et beaucoup fonctionne de nos jours avec l'amour. Avec l'amour, l'amour me permet de tout faire. Comme dit Jonathan Lehman dans son livre « Le règne de l'amour », il dit « Aujourd'hui, on peut justifier à peu près tout en invoquant le mot « amour ». Deux personnes s'y aiment vraiment, alors bien sûr, nous devons accepter tel ou tel comportement, telle ou telle relation, telle ou telle sexualité. Si Dieu est amour, alors il ne ferait sûrement pas ceci, cela, interdire, juger. Je trouve intéressant ce qu'il dit dans son livre. Il dit la Bible dit Dieu est amour, mais notre monde, notre époque, dit l'amour est Dieu. Vous voyez la différence entre Dieu est amour et puis le monde qui dit l'amour est Dieu. Donc, au nom de l'amour, il ne faut pas me juger, je peux faire ce que je veux. Est-ce que Paul est en train de dire, voilà, tout est permis au nom de l'amour, l'amour excuse tout, l'amour croit tout? Est-ce que Paul est en train de dire qu'il faut rester dans des situations abusives, violentes, dangereuses, l'amour excuse tout? Non. Si vous lisez l'ensemble de cette lettre, c'est loin d'être le cas. Paul lui-même avait des paroles sévères envers les Corinthiens, en chapitre 5, où il fallait que l'assemblée exclue de son sein quelqu'un qui vivait dans la débauche, dans l'immoralité sexuelle. Donc écarter un danger, par exemple, protéger un vulnérable avec peut-être force, appliquer une punition, lutter contre les injustices, ce n'est pas contraire à l'amour, c'est même une expression de l'amour, si c'est fait dans le cadre de la sagesse et de la Bible. Ceci dit, faut-il vraiment rester irrité, impatient, fâché, amer, rempli de haine pour lutter contre les injustices de ce monde autour de vous? Faut dire qu'aujourd'hui, c'est un peu la mode. Hein, il faut se mettre perpétuellement en colère sur les réseaux sociaux et dans les infos contre les injustices. Et je vous rappelle que cela n'est pas pareil qu'apporter des solutions. Je crois même que vous pouvez lutter contre les injustices en gardant la patience, le calme, l'espérance, un cœur libre. D'ailleurs, c'est ce que nous attendons des policiers, des gendarmes, des juges qui sont là pour combattre les injustices. Mais justement, ils ne sont pas constamment irrités, impatients, colériques dans l'exercice de leurs fonctions. Et heureusement, même ils sont formés à cela, ils apportent une meilleure justice en gardant la tête froide, posée, en respectant l'autre personne, en gardant un certain amour du prochain. Donc nous sommes d'accord, j'insiste, le verset 7 n'est pas une licence pour tout faire. L'amour excuse tout, quoi tout. Donc qu'est-ce que Paul est en train de dire alors par cet appel radical ? L'amour ne périt jamais, il excuse tout, il croit tout, il espère tout. C'est une fonction, effectivement, de sa patience, de sa capacité à ne pas s'irriter. Mais finalement, la seule manière que ce verset fait sens, c'est quand comme la citation de Jonathan Edwards, c'est quand on relie ça au caractère de Dieu et à l'œuvre de Dieu, et quand on regarde à la croix. La croix me permet de dire, oui, face à un tort que je subis ou face à une injustice, eh ben, Dieu va le gérer. Soit à la croix, Jésus a réglé la justice, a payé la peine, soit un jour Dieu va le punir. Mais en tout cas, je n'ai pas besoin, moi, de me venger. Ce qui me permet d'excuser, de supporter, de croire, d'espérer. J'adopte en quelque sorte le regard de Dieu qui lui fera une justice parfaite, qui ne laisse pas passer des injustices, mais il a trouvé une solution à la croix, aussi des versets de l'amour. Et c'est ça qui m'aide. Si Dieu est capable d'excuser, tout excuser par la croix, je regarde, et ce qu'il a fait pour moi, je regarde et je peux entrer dans cette radicalité troublante. En regardant à la croix, je peux enfin renoncer à mon droit de colère, parce que c'est ce que Dieu a fait envers moi. Quand je choisis par amour de ne pas m'offenser, de ne pas m'irriter, c'est pas parce que j'ignore l'offense ou que je le minimise. Non, c'est parce que Dieu a fait pareil envers moi. Sans minimiser l'offense, il fallait que Jésus paie de son sang. Mais ça, c'est la promesse de l'Évangile, le message de l'amour de la Bible. Si vous placez votre confiance en Christ, encore ce matin, en fait, l'amour de Dieu excusera tout votre passé et il supportera tout votre avenir pour vous aimer et vous accueillir chez lui. Ça, c'est le message de la croix, c'est le message de l'Évangile, c'est le message de la Bible. Si vous faites confiance à Jésus-Christ, tout est excusé et tout sera supporté. Et vous commencez à pouvoir faire pareil envers d'autres. C'est une transformation radicale, il y a une puissance radicale dans tout ça. Je reviens pour terminer aux quatre amours dont on parlait tout à l'heure, où on utilise le même mot pour différents amours. Je reconnais finalement que oui, c'est comme les jeux vidéo, il y a niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau expert, et puis il y a niveau impossible. Et ce matin, on a parlé du niveau impossible. Niveau débutant, aimer le chocolat, oui, c'est facile. Niveau intermédiaire, aimer mon collègue, aimer mon voisin, aimer un ami, il y aura peut-être des couacs à régler, mais bon, on s'entend très bien. Aimer une autre personne de manière romantique, pour lui rester fidèle toute une vie, dans le cadre des vœux, des promesses, du mariage, ça commence à être niveau expert. Et là, aimer mes ennemis, aimer des gens qui sont très différents que moi, aimer des gens qui m'irritent, ça, on est dans le niveau impossible. Mais miracle des miracles, le niveau impossible est devenu possible à Corinthe. Et si ce niveau est devenu possible à Corinthe, avec toutes ces différences, avec l'esprit de concurrence terrible, avec tout l'argent qui circulait, comme nous avons vu la semaine dernière, si le niveau impossible est devenu possible à Corinthe, eh bien c'est possible à Toulouse. C'est ce que nous voulons vivre. Et c'est ce que nous vivons réellement à l'EPTM. C'est merveilleux, c'est miraculeux, mais vous pouvez encore ce matin entrer dans cet amour, saisir l'amour que Dieu a manifesté par Christ à la croix, et puis à votre tour, vivre cette vie qui patiente, qui ne s'irrite point, qui supporte les autres pour refléter le caractère de Dieu, que Dieu nous aide et que l'EBTM soit un lieu où cet amour se pratique. Prions pour terminer. Seigneur, merci pour cette belle qualité de l'amour. Nous te prions de nous l'accorder. Nous te prions que cet amour niveau impossible devienne possible par Jésus-Christ, que tu verses ton amour dans nos cœurs. Nous aurons probablement très prochainement l'occasion de pratiquer cet amour, de s'entraîner à la patience, à la manque d'irritation. Et nous te prions de nous aider. C'est telle est l'œuvre de ta puissance dans nos cœurs. Tu nous rends capables d'un tel amour. Et nous te remercions de ce que toi, tu nous as pardonné grandement. Et nous pouvons pardonner et supporter les uns notre entourage, puisqu'il s'agit des petites offenses comparées à ce que nous t'avons fait. Mais tu nous aimes et nous voulons saisir encore cet amour ce matin. Merci pour ce culte que nous avons pu t'offrir. Bénis le restant de cette journée. Aide-nous à vivre cette rentrée de l'EBTM avec beaucoup de foi, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'amour. Aide-nous à marcher dans tes voies et à accomplir les œuvres que tu as préparées pour nous. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.